Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
La foi affirmée sans concile, l'Évangile et l'Église. À quoi donc ont cru les premiers chrétiens et ces catéchumènes dont nous avons parlé au cours de nos derniers entretiens quand ils répondaient « Je crois » au moment de leur baptême ? La réponse à cette question est simple à donner, ils ont cru à l'Évangile. Attention, je ne dis pas « aux évangiles », je dis bien « à l'Évangile » au singulier et avec un « e » majuscule. En effet, les évangiles sont des textes que nous reconnaissons inspirés, mais ce sont avant tout des textes. Les chrétiens ont cru à l'Évangile avant qu'il n'existe des évangiles, car les évangiles ont été rédigés quelques dizaines d'années après la Pentecôte, et dans l'intervalle, il y avait déjà des chrétiens, de plus en plus nombreux, qui croyaient à l'Évangile sans avoir encore à leur disposition les évangiles. Mais que recouvre donc ce mot « évangile » employé au singulier et écrit avec une majuscule ? C'est l'apôtre Paul qui nous met sur la voie. Saint Paul emploie le mot « évangile » au singulier, et pour cause, puisqu'à l'époque où il écrit ses lettres, il n'y a pas encore les évangiles. Dans l'Épître aux Romains, par exemple, il écrit « Je ne rougis pas de l'évangile, il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » C'est au chapitre 1, verset 16. Employé en ce sens, l'Évangile agit comme une sorte de sacrement primordial qui sauve celui qui le reçoit, comme dit saint Paul lui-même. L'Évangile, pour saint Paul, c'est donc l'annonce du salut, une annonce performative qui a la capacité de transformer ceux qui l'accueillent. On peut donc dire que l'Évangile, c'est le Christ lui-même en tant qu'il est annoncé. Annoncer l'Évangile, c'est transmettre le Christ et avec lui l'Esprit-Saint et le Père. Ce que je viens de dire a une conséquence très importante. Si annoncer l'Évangile, c'est transmettre le Christ, et avec lui toute la connaissance de Dieu, la première génération chrétienne avait une foi tout aussi complète que la nôtre. Il ne lui manquait rien de tout ce que nous croyons. Mais dire cela, c'est soulever en même temps une énorme question, car cette première génération ne disposait pas de notre credo, et pas davantage de tout l'arsenal des dogmes qui s'est accumulé au cours de 20 siècles d'histoire de l'Église et de 21 conciles écuméniques. Or, je viens de dire que sa foi était aussi complète que la nôtre. Alors, n'y aurait-il pas lieu de se débarrasser de tout ce fatras dogmatique accumulé comme on déleste un aéronef pour lui permettre de monter plus haut? Puisqu'il ne manquait rien à la foi des premiers chrétiens, à quoi nous servent aujourd'hui tous ces textes contraignants et un peu vieillis? Alors ce rêve de retour à une simplicité originelle débarrassée de tous les ajouts est fréquent dans l'histoire de l'Église. Il a sa part de vérité, en particulier quand il remet en question le cléricalisme, cette manière de disqualifier la parole et la foi des petites gens pour mettre en avant la parole de ceux qui savent et qui s'imaginent croire mieux ou au moins de manière plus responsable que ceux qui s'en tiennent à une foi toute simple. À cela, il est utile de rappeler que même si j'apprends par cœur tous les textes et toutes les définitions dogmatiques de tous les conciles, ma foi ne sera pas plus grande que la foi du charbonnier. Pourtant, cette conception de la pureté originelle à laquelle il faudrait s'en tenir oublie une donnée fondamentale. C'est que l'Évangile doit manifester sa nouveauté et sa puissance pour le salut de tout homme qui croit à travers l'histoire jusqu'à la venue finale du Seigneur. Et dire cela, c'est dire qu'on ne peut pas le transmettre comme un dépôt figé, en se contentant de le réciter par cœur. Il vient à la rencontre d'une humanité sans cesse en mouvement, sans cesse en évolution, et de cultures très diverses auxquelles il doit être annoncé. Il n'est vivant qu'en étant transmis de manière vivante, par les traductions dans les différentes langues, par des développements explicatifs qui en décryptent la signification aux diverses cultures, par des réponses aux défis rencontrés dans les périodes successives de l'histoire. Devant ces défis sans cesse à relever, comme le dit le théologien Bernard Cesboué, l'exigence d'identité profonde se traduit en une attitude de fidélité, mais l'exigence de vie se traduit en une inventivité créatrice. Pour demeurer toujours la même, l'annonce de l'Évangile doit se renouveler en permanence, c'est ce qu'on appelle la tradition vivante. Le Nouveau Testament lui-même n'est pas un livre écrit par Jésus, mais un témoignage de foi de la génération des apôtres rendu à Jésus. On voit par là que l'évangile est confié à une communauté chargée de le porter à toutes les générations, en prenant en compte la vie concrète des hommes et des femmes à qui elle le porte, faute de quoi il ne pourrait pas être reçu. Le travail d'écriture réalisé avant la disparition des derniers apôtres témoigne du souci que l'évangile transmis soit toujours un évangile authentique. C'est pourquoi ceux qui ont écrit le Nouveau Testament ont fait un travail qui reste normatif pour toutes les générations. Les textes qu'ils ont rédigés sont pour toujours paroles de Dieu. Jusqu'à la fin des temps, on n'ajoutera plus rien au Nouveau Testament. On n'y ajoutera plus rien, mais on ne pourra pas non plus se contenter de le répéter. D'une part parce qu'on aura besoin de résumés synthétiques de la foi qu'on utilisera pour donner le baptême, d'autre part parce qu'il s'agira sans cesse de préciser à quoi on croit devant des cultures et des religions différentes. En voici un exemple tiré encore une fois de saint Paul. Il écrit dans la première aux Corinthiens « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses sont venues à l'existence et par qui nous allons au Père. » C'est au chapitre 8, verset 6. Si saint Paul introduit ce résumé en disant « pour nous », c'est parce qu'il vient de constater juste avant que pour d'autres, il y a quantité de Dieu et quantité de Seigneur. Il faut donc préciser ce que nous croyons devant des contradicteurs qui croient autre chose, des polythéistes en l'occurrence, et préciser, ce n'est jamais simplement répéter. Mais une situation presque plus difficile va se présenter lorsque les contradicteurs ne seront pas des gens du dehors, comme les tenants des religions traditionnelles dans l'Antiquité, mais des gens qui, tout en se présentant comme du dedans, parce qu'ils se réfèrent à l'Évangile, lui font dire des choses qu'il ne dit pas. Un des premiers grands théologiens de l'histoire chrétienne, saint Irénée, mort en 202, a eu à affronter ce genre d'adversaires qu'il appelle les gnostiques, parce qu'ils prétendaient à une connaissance supérieure, sous-entendu supérieure à celle des membres de la grande Église. Confronté à un danger très grave pour la foi chrétienne, saint Irénée répond en soulignant le lien entre l'Évangile et l'Église. Il soutient fermement que l'Église, qui remonte aux apôtres par une succession ininterrompue, à mission d'assurer toujours la transmission authentique de l'Évangile. Voici ce qu'il écrit, je le cite, « Le Seigneur a donné à ses apôtres le pouvoir d'annoncer l'Évangile, et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. Cet Évangile, ils l'ont d'abord prêché, ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. » Ce texte, qui affirme que l'Évangile est premier par rapport aux Évangiles, souligne aussi que l'Église, qui transmet, ne fait qu'un avec les apôtres qui sont à l'origine de cette transmission. On peut et on doit s'appuyer sur elle pour ne pas risquer d'interpréter les textes de manière fantaisiste. Et pour bien marquer que cette transmission n'a rien de mécanique ou de statique, Irénée poursuit, je cite, « Cette foi que nous avons reçue de l'Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tel un dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient. » L'argument d'Irénée est celui de la succession ininterrompue des transmetteurs. À son époque, on est encore tout près de la génération des apôtres. Alors qu'il était tout jeune, Irénée a connu le vieux Polycarpe, qui lui-même tout jeune avait connu le vieux saint Jean l'évangéliste. Même si beaucoup de générations se sont succédées depuis, ce principe de la succession ininterrompue demeure toujours valable pour nous. Quand je suis devenu évêque, je me suis amusé à faire mon arbre généalogique épiscopal, avec le nom de celui qui m'avait consacré évêque, puis de celui qui avait consacré le précédent, et ainsi de suite. Les documents dont je disposais ne m'ont pas permis de remonter plus de 3 siècles en arrière, mais si j'avais été suffisamment documenté, j'aurais pu remonter jusqu'aux apôtres. Les évêques sont les successeurs des apôtres, de manière non pas fictive mais réelle. Par eux nous est garantie la transmission de l'Évangile de manière complète et inaltérée.